France Info.
Quelle image avons-nous, nous, Français à l'étranger? Eh bien, c'est ce dont nous parlons avec vous depuis ce matin, Marie Treps. Je rappelle que vous êtes linguiste, sémiologue et que vous avez donc repéré toutes les traces de français dans les langues étrangères, traces qui sont souvent apparues au XVIIIe siècle. On en a parlé à l'époque où la France dominait le monde. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, finalement, de ce désir de France, de ce désir de français qui était bien réel il y a 3 siècles?
Oh, il reste des choses dans les domaines chouchous, quoi. C'est-à-dire les domaines phares, la gastronomie, l'art de s'habiller aussi. Ces deux domaines-là, prioritairement. Même en Asie, dans des endroits nouveaux, en fin de compte. Et l'art d'habiter aussi. Je suis allée à Taipei, il y a des, quand on construit une résidence luxueuse, ça s'appelle Versailles ou Trianon. Donc toujours ce 18e siècle.
Alors ce qui est marrant d'ailleurs avec l'Asie, c'est que vous dites que peu importe ce que disent les mots, ce que dit la traduction, ce qui est important, c'est que ça sonne français.
Ça sonne français et que ce soit assimilable par des oreilles et des gosiers japonais, c'est-à-dire avec élimination des consonances qui sont difficiles pour un asiatique. Hein.
Il y a cette envie de musique du français.
Il y a cette envie de musique, oui, mais aussi le français, et en Thaïlande, c'est la même chose, il est utilisé à des fins mercantiles. Ça fait vendre, si j'ose dire. Et dans certains domaines, alors, massage, j'ai trouvé massage Emmanuel, par référence au film Emmanuel, je pense, en Thaïlande. Et puis, alors, cette année, comme par hasard, au moment de la semaine de la langue française, le Quai d'Orsay, Laurent Fabius, a organisé un grand dîner dans le monde entier. Le dîner français, le goût de France, le dîner français. Alors là, on retourne dans les fastes du XVIIIe siècle et on retrouve encore cette idée que l'exemple vient d'en haut.
Mais la France d'aujourd'hui, elle est là alors, quand même un peu, parce que le XVIIIe c'est bien, mais...
On n'est jamais non plus, il y a beaucoup de choses négatives, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, depuis deux décennies à peu près, les journaux allemands sont très critiques vis-à-vis de la politique française, et quand il se réfère à l'expression grande nation, la grande nation c'est la France de la Révolution française et de Napoléon, la France conquérante, la France qui a répandu l'idée de nation, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, voilà. Mais là, ça devient très ironique, ils ont même parlé du terme la grande nation autoproclamée. Bon. Et puis, tout à coup, à la suite des attentats de janvier, on voit autour du président Hollande des présidents, des personnalités de pays de l'Europe entière et même au-delà, qui viennent communier dans l'idée que la France est le pays des droits de l'homme et de la liberté. Mais en fait, je n'ai pas eu l'occasion de le dire encore, mais c'est toujours l'histoire qui fait évoluer les choses. Les traités qui ont suivi les deux guerres mondiales et qui ont fait que, par exemple, comme la Bulgarie ou la Hongrie ont eu leur
traité de Versailles.
Porte de Versailles ou de Neuilly, oui, ont produit des expressions. À la suite de ça, en Bulgarie, on dit garantie française. C'est quoi une garantie française? C'est une promesse politique peu fiable, c'est très précis, de un produit dont la qualité n'est pas sûre, garantie française, on va pas y toucher. Et puis, au même moment, en Hongrie, on voit apparaître « je m'en fous », qui est l'expression empruntée à notre « je m'en fous ». Voilà, les politiciens sont inconséquents, enfin, ils sont perçus comme tels, hop, des expressions apparaissent.
Mais la passion française n'est pas totalement éteinte dans tous ces pays.
Je ne crois pas qu'elle soit éteinte. Non, parce que j'ai aussi des témoignages d'étudiants qui viennent faire leurs études en France et qui repartent avec des mots, avec des... Ce qui est sûr, c'est que les mots qu'on trouve aujourd'hui en Asie, par exemple, dans les pays où jusque-là le français n'était pas très implanté, c'est un français un peu déglingué. Ce n'est plus... Alors que par rapport au XVIIIe siècle où l'Europe parlait français et correspondait en français. L'Europe avait fait du français sa langue d'élection. Alors on est loin de tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que à la fin de ce livre, je me suis sentie très française et très heureuse de l'être.
Merci, Marie Treps. Oh là là, c'est français. C'est le titre de ce livre que vous publiez. Merci d'avoir été notre invitée.